local à vendre.
Manger local, c'est connaître de visu le producteur et la productrice de tout ce qu'on mange. Manger local, c'est voir de visu les mains qui plument le poulet, qui traient la vache et la chèvre, qui désherbent le navet, qui cueillent le raisin et qui pétrissent le pain. Manger local, c'est avoir la carte mentale de tous les produits du quotidien. On sait où trouver quoi et chez qui.
Oh, et aussi, ça veut dire pouvoir aller aider les producteurs et les productrices en temps de confinement.
Un podcast de Wilfried Kroos avec l'aide de l'onde porteuse.
69 milliards, c'est le nombre de calories consommées par un homme durant toute sa vie. Pour une femme, c'est 62 milliards. Ça vous parle pas ? Je vais plutôt vous parler en tonnes alors. Dans toute une vie d'occidentale, on ingurgite en moyenne 73 tonnes de nourriture, soit le poids d'un petit avion de ligne, de 50 voitures ou encore plus de 2 camions, des 33 tonnes. Je sais pas vous, mais moi, quand on parle de bouffe, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Je me souviens de l'odeur du biberon qui parfois me revient au nez, même 30 ans après. Je me souviens de goûter Choco Prince dans la cour de récré et le chocolat que je mangeais en premier. Je me rappelle avoir jeté une assiette d'épinards à la poubelle en faisant croire à ma mère que j'avais tout mangé. Je me souviens que ma mère a voulu me faire plus souvent des épinards après ça. Je me souviens que ma première bière était une Heineken et qu'elle était amère. Je me souviens que l'ivresse qui s'en est suivie était, elle, très douce. Je me souviens que j'aimais boire à la paille parce que j'aspirais directement la grenadine au fond du verre. Je me rappelle avoir fait des cauchemars quand j'ai appris qu'on mangeait des huîtres vivantes. Je me souviens de la mousse au chocolat de ma mère et des œufs montés en neige. Je me rappelle avoir mis des friandes dans mes poches à la cantine pour les manger après. Je me souviens que ma mère se demandait d'où venaient tant de miettes. Je me rappelle lui avoir répondu qu'elles venaient de mes poches, pardi. Je me rappelle avoir calculé combien de baguettes de pain on perd par mois avec toutes les miettes qu'on laisse sur la table chaque jour. Sachant que le poids d'une baguette est en moyenne de 250 grammes et qu'on perd environ 8 grammes de miettes par jour, on est à une baguette sacrifiée par mois. Et tout ça pourquoi ? Pour faire gonfler des oiseaux. Super. Pourquoi j'ai fait ça ? Peut-être pour avoir un truc à répondre à ma mère qui disait qu'il fallait que je finisse mon assiette parce qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim dans le monde. Je voyais pas le rapport. Je me souviens que j'ai mis longtemps à comprendre que c'est toujours moi qui avais la fève dans la galette des rois. Je me rappelle avoir été dégoûté de trouver un cheveu dans ma soupe, parce qu'après, j'avais peur d'avoir un cheveu sur la langue. Je me souviens aussi m'être posé la question de si je mangeais du poussin quand je mangeais un œuf de poule. Chez ma grand-tante, à la campagne, il y avait des poules, des lapins, des brebis, des carottes, des patates et des chiens de chasse. Quand on allait les voir avec mes parents, mon père, il disait qu'on allait
à la ferme.
Mais c'était plus vraiment une ferme. C'était un jardin avec quelques animaux. Dans les années 80, l'agriculture s'était bien modernisée. On pouvait manger à notre faim, notamment en mettant de l'eau chaude dans un bol en plastique.
Quand on a fait les boutiques toute la matinée,
quand on est tous les deux en train de bricoler,
ou bien quand il y a un super match à la télé,
on peut tout de même,
d'un bon petit plat,
se régaler.
Le modèle paysan autosuffisant, c'était déjà du folklore. Et du coup, moi, j'étais déjà bien éloigné de la terre. Le seul lien que j'avais avec le sol, c'était à table, avec les repas de famille. Chez ma grand-mère, il y avait notamment des escargots en sauce que mon grand-père avait ramassés. Chez ma grand-tante, il y avait toujours au moins une ou deux entrées, deux plats, du fromage et un dessert. Et un petit sucre chargé de rhum pour faire passer tout ça. La plupart de ce qu'on mangeait venait de pas très loin, en tout cas pour les légumes et la viande. Mon père, lui, il se contentait de servir à boire et de faire la vinaigrette, pendant que ma mère était au four et au moulin. Et l'engueulait à lui disant
« Mais ne remplis pas tant les verres, on se resservira !»
Plus tard, j'ai fait l'expérience de repas dans d'autres cultures. J'ai mangé de la panse de brebis farcie avec une recette écossaise des parents de ma copine de l'époque. Le truc rigolo avec ce haggis, c'est que ça se mange accompagné d'un verre de whisky. Je vous raconte pas la fin de repas. J'ai aussi mangé 5 repas par jour lors d'un séjour au Maroc avec des hommes, uniquement des hommes. Les femmes passaient leur temps en cuisine et on ne les voyait pas lors des repas. C'est peut-être la seule différence avec ma grand-mère et ma grand-tante. Elles, on les voyait, mais par intermittence à table, entre deux sessions de vaisselle, comme ma mère d'ailleurs. Celles et ceux qu'on voyait de moins en moins, en tout cas, dans ces années 90, c'était les paysannes et les paysans.
Moi, je voulais aller à l'école et travailler. Ma mère n'a pas voulu, j'ai travaillé tout le temps là. Alors j'ai écouté, on était soumis à l'époque. À 15 ans, tu ne penses pas à la retraite. Et je suis là sans retraite, sans rien. Eh oui.
Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'intéresser à ce que je mange. Pas pour faire un régime, mais pour savoir quelle économie ça nourrit, ce que je mange. Quelle convivialité ça sert ou ça dessert. Pour savoir comment je peux faire, comment nous pouvons faire, pour revenir dans la chaîne alimentaire sans en être les consommateurs et consommatrices, sans en être les prédateurs et prédatrices.
Alors les terres agricoles disparaissent en France au rythme d'un département tous les 6 ans.
Les AMAP, les magasins de producteurs, les marchés de plein vent, tout ça, ça permet de garder un lien local avec les paysannes et paysans. Mais pour donner leur chance à des nouveaux et nouvelles paysans et paysannes, il faut pouvoir accéder aux fonciers, à des terres. L'association Terre de Liens permet l'achat collectif de terres pour aider à cette reprise en main des territoires par l'agriculture, par les citoyennes, par les citoyens. Mais elle ne peut pas être partout.
Comment favoriser une agriculture locale, bio et paysanne?
Non, Pascal, non, ne lis pas.
Au-delà de ses choix de consommation.
Ne lis pas, ça s'entend, Pascal.
On peut aussi orienter son épargne différemment. La sortir de la banque et la placer dans une société foncière locale.
Bon, c'est pas grave.
Qui transforme l'épargne en investissement dans les terres et facilite l'installation de paysannes et paysans.
Ah, c'est très bien.
C'est ce que fait la société Terre Citoyenne Albigeoise, gérée par des citoyennes et citoyens bénévoles autour d'Albi.
Merci Pascal. L'argent, ça ne se mange pas. Sauf si on le met dans une foncière citoyenne, comme TCA, Terre Citoyenne Albigeoise. Que vous sachiez cuisiner les côtes de blette béchamel, ail et persil, ou que vous ne sachiez même pas faire cuire un œuf, vous pouvez sans doute choisir, comme moi, Pascal et bien d'autres, de nourrir un peu moins des banques et bien plus la paysannerie. Dans cette foncière et sa petite sœur associative, on réinvente les repas de famille et on essaye de n'oublier personne. Terre citoyenne tout attachée, au pluriel, .org.
O-R-G.